Oui, nous sommes en direct au téléphone avec Peggy Sastre, la traductrice des Netocrates. Merci beaucoup, Peggy Sastre, d'être avec nous en direct par téléphone.
Merci à vous.
Alors, ma première question, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'historique de cette traduction? Parce que je crois qu'il y a un historique assez rocambolesque pour traduire les Netocrates.
Oui, rocambolesque si on veut. En fait, ça a commencé en juin 2007, donc je suis journaliste pour Chronique Art aussi. Donc j'avais interviewé Alexander Bard pour dans le cadre de l'entretien Fleuve, qui est le gros entretien à la fin du magazine tous les mois. Et donc dans l'introduction, je vous ai remarqué que c'était un peu honteux qu'un livre aussi essentiel, best-seller dans beaucoup de pays, ne soit pas encore traduit en France. Et donc c'est Léo Cher qui est éditeur et aussi propriétaire du magazine qui a dit banco, je traduis. Et donc voilà quoi.
Ça s'est fait comme ça. Et alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce texte en français? Pourquoi est-ce que c'est important de lire ce texte?
Pour moi c'est, j'essaie un peu d'être objective, c'est que c'est un des, pour moi c'est un des rares ouvrages qui se contente pas seulement de décrire la révolution numérique et l'âge de l'information comme ça, mais ça fait déjà 30 ans qu'on en parle. Mais ça le met en perspective de manière historique et sociologique et d'une manière assez originale, à la fois dans la forme et dans le fond. Et je trouve que c'est vraiment un livre, d'ailleurs les auteurs le disent, qui est complètement qui explose toutes les barrières de genre. On ne sait pas vraiment si c'est de la sociologie, de la philosophie, de l'économie, de l'histoire. C'est assez ça bouscule un peu tous les repères qu'on peut avoir sur ce genre de livre.
Alors oui,
et surtout, c'est assez, ça fonctionne un peu comme un polar à rebours. À chaque chapitre, il y a un petit cliffhanger qui donne envie de continuer. Et surtout, c'est pour moi le premier livre, à ma connaissance en tout cas, qui tire vraiment les conséquences des deux révolutions du XXe siècle, qui sont le séquençage de l'ADN et Internet. C'est vraiment ça, quoi.
Alors, effectivement, on est au croisement d'une multitude de savoirs. On est toujours au bord aussi de la philosophie au niveau de la tenue du texte. L'originalité de leur pensée, c'est quoi vraiment leur originalité à eux, Alexandre Barthes et Agent de Soderquist, en plus de ce que vous nous avez déjà dit? Il y a une originalité profonde, j'ai l'impression, de croiser tous ces savoirs de l'extrême contemporain.
Et aussi, je pense que c'est aussi original par rapport au ton qu'il propose, c'est-à-dire que dans ce genre d'ouvrage, on a l'habitude d'avoir des tons soit catastrophiques, catastrophistes, soit carrément exaltés et utopistes. Eux, ils restent assez en retrait, on va dire. Ils sont ils sont vraiment dans leur posture d'observateur et ils montrent les choses telles qu'elles sont. Et c'est assez frais, je trouve, d'avoir un livre où on sent pas comme ça les gros sabots de l'opinion personnelle de l'auteur ou des auteurs en l'occurrence.
Parce qu'ils annoncent rien que moins qu'une rupture dans le capitalisme.
Ils annoncent, c'est pas vraiment une annonce, c'est plus une sorte de, comment dire, de... Il tire les conséquences de choses qui arrivent, quoi. C'est très factuel comme livre. C'est pas vraiment prophétique.
J'ai l'impression quand même qu'ils font quelques prédictions. Enfin, non, ça vous a pas semblé comme ça?
Non, j'ai pas trouvé que c'était très visionnel.
Parce qu'ils annoncent une nouvelle classe sociale et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres auteurs qui parlent de ces mêmes nouvelles classes sociales.
Oui, c'est là aussi leur originalité. C'est dans tout ce qui s'est passé à la fin des années 70 dans la Silicon Valley aux États-Unis pour Bard et Soderquist, c'est carrément un peu des sortes de mutants qui sont nés là-bas et qui vont être à l'origine d'une nouvelle civilisation, on va dire.
Et ça, c'est pas vraiment... Moi, je le prends presque comme de la prédiction sociale.
Oui, ça peut être ça aussi. Oui.
Et alors, est-ce qu'il... J'aimerais savoir un peu connaître les liens entre ce livre, Les Netocrates, et puis le magazine Chronicarte, le numéro du mois de février de Chronicarte.
Oui.
Les deux auteurs, Barthes et Soderqvist, font carrément la couverture.
Il y a tout un dossier sur
Les Netocrates.
Dans le dossier sur la sortie du livre, parce qu'on en était quand même un peu les géniteurs. Et c'est aussi parce que Chronicarte, contrairement à beaucoup de magazines et de revues papier qui vont un peu qui sont ensuite allés sur Internet un peu pour faire les cools et pour s'adapter un peu bonhomme à l'an avec leur vieille technique de médias de masse à Internet. La différence, c'est que Chronicarte est né sur Internet. C'est d'abord un webmag qui est ensuite devenu un magazine papier. Et donc on est complètement dans les nouvelles façons de consommer et de produire de l'information que Barthes et Soderqvist décrivent.
Et donc est-ce qu'on pourrait dire que le magazine Chronicarte est en phase avec ce que disent Barthes et Soderqvist?
Ah oui, de toute façon ça faisait très longtemps que Cyril Degrave, le rédacteur en chef, voulait interviewer Barthes et Soderqvist. Voilà, en l'occurrence en juin, j'avais eu que Barthes. Oui, c'est très ancien, c'est depuis 2000-2001.
Parce que les différents éléments qu'on retrouve, les différentes interviews, les différentes chroniques qu'on trouve dans...
C'est un magazine Netocrate, si on veut.
Voilà, on pourrait presque dire ça, parce que dans le dernier numéro, par exemple, on trouve un excellent article sur les technosciences fiction autour du livre Manifeste Cyborg de Donna Haraway, par exemple. Mm-hmm. Je suis en train de le feuilleter. Je trouve plein de choses sur les jeux vidéo, par exemple, aussi.
Oui, et ce mois-ci, le 43 qui vient de sortir, c'est sur Gibson et sa manière d'intégrer Google dans son écriture.
Est-ce qu'il y a un programme de traduction à venir des autres textes de Barthes et Soderqvist?
Il n'y a pas de programme vraiment précis. Enfin, au niveau des contrats, je suis pas assez au fait de ça, mais je sais que le deuxième... Le deuxième tome, entre guillemets, de la série, parce qu'il faut savoir que Netocrates annonce en fait une trilogie qui va être suivie par The Body Machines, qui va montrer en fait qui va revenir plus précisément sur les révolutions et les ravages, entre guillemets, que le séquençage de l'ADN a orienté sur la façon que l'homme a de se voir lui-même. Donc ça, normalement, il le termine cet été. Donc je pense qu'on peut tabler sur une parution en début 2009. Et sinon, le troisième tome, The Global Empire, qui lui est plus politique, est lui déjà rédigé, donc ça peut sortir dans la foulée, quoi.
D'accord. Bah, très très bien. J'avais juste une dernière question, peut-être un peu potache, c'est sur leur façon de s'habiller.
C'est surtout Barthes, ça.
Oui, Soderqvist c'est pas mal aussi.
Barthes, de toute façon, c'est une figure, il fait aussi de la musique pop, dans les années 90, il a été assez tendancieux en Suède, parce qu'il faisait la promotion à la télé, à la radio et sur Internet des drogues, de sa bisexualité contente, etc. C'est vraiment un personnage, Alexander Barthes. Soderqvist, c'est plus l'éminence grise du duo.
D'accord. Et Alexander Barthes, donc, s'habille toujours comme ça?
Oui, il est toujours en short. Enfin, pour l'instant, toutes les fois où je l'ai vu, il était toujours en short.
Bon, c'était désolé pour cette dernière question. Mais
Non, mais ça intéresse beaucoup de gens, les shorts d'Alexander Barthes.
Oui, et puis la couverture est quand même ouais, terrible. On voit rarement un livre avec une couverture pareille. Et c'est vrai que du coup, c'est agréable, c'est bien, ça change. Ben, merci beaucoup, Peggy Sass, d'avoir été au téléphone avec nous. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir.